auditeurs, chers auditrices de Mets de Résistance, Radio Galère 88.4, Marseille, et Radio Mono à Châlons-Champagne. Tout d'abord, je vous présente, à l'aube de cette première émission Mets de Résistance de 2026, mes meilleurs voeux de bonheur, de joie, en vous souhaitant que ce soit une année fantastique pour chacun d'entre vous. Et puis, je vous présente la nouvelle option 2026. Jusqu'ici, nous avons fait pas mal d'émissions sur l'actualité, notamment avec Odile, ou sur l'histoire culturelle, le patrimoine. Mais on a fait, mis à part la présentation de un ou deux festivals de cinéma, qui étaient des événements exceptionnels ou conjoncturels, on n'a jamais fait vraiment d'émissions sur le cinéma. C'est ce à quoi je réfléchissais cet été. Et donc j'avais décidé que à partir de janvier 2026, on ferait de temps en temps une émission sur du vrai cinéma d'auteur, de façon à mieux comprendre certains metteurs en scène. Le cinéma, c'est quand même magique, reconnaissez-le. On a souvent des nouveaux films qui sortent. D'ailleurs, ce mois d'octobre dernier, je vous avais présenté des films qui sont sortis en avant-première au festival War on Screen de Châlons-Champagne dans le 51. Et ce sont des films qui sortent tous ce début d'année. Vous en avez entendu parler en octobre lors de mon émission. Et vous pouvez désormais commencer à envisager sérieusement d'aller les voir, puisqu'ils vont passer un peu partout en France. Je pense notamment en ce moment au film Sirat, et puis il y en a plein d'autres qui sont déjà sortis et d'autres qui vont sortir. Donc là, il ne s'agit pas dans mon objectif, sur mon projet ciné 2026, de parler de festivals, sauf si de temps en temps on a l'occasion de les citer. Il s'agit de parler de vrais cinéastes. Alors, on n'est pas obligé de parler que des cinéastes français, mais on va leur laisser quand même une part importante. Souvent, c'est pas toujours facile. Il y a déjà beaucoup de films nouveaux qui sortent. Et j'ai remarqué, de par mon expérience personnelle, que c'est souvent très difficile de se coller à la connaissance d'un grand cinéaste en allant voir tous ses films lorsqu'il y a notamment une rétrospective. Je pense à l'Institut Lumière à Lyon, qui fait beaucoup de rétrospectives sur des auteurs, sur du cinéma d'auteur, et ainsi qu'aux différents cinémas art et essai de Marseille ou de sa région, et tous les cinémas art et essai ou centres culturels cinématographiques de France et de Navarre. Effectivement, ce n'est pas facile parce que s'en tenir à une rétrospective, ça veut dire passer 3 ou 4 jours à faire que regarder des films. Et donc j'ai pensé que mes émissions pourraient vous aider à mieux connaître les auteurs et éventuellement choisir les films que vous voulez voir autour de ces auteurs les regarder soit sur internet, soit si vous avez la chance de pouvoir les voir sur grand écran en salle, tant mieux. Sachant qu'il y a aussi beaucoup de conférences qui sont organisées dans le cadre des rétrospectives de cinéma d'auteur des cinémathèques de France. Alors, j'ai choisi aujourd'hui, et je n'ai pas fait exprès en fait, Patrice Hiérot. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, j'ai eu la chance de revoir une deuxième fois, mais cette fois-ci sur grand écran, son film La Reine Margot, un film qui a été tourné dans les années 90, au début des années 90. Alors, ce film, il est intéressant. Il y a d'abord, c'est un film qui montre l'histoire, un film historique, un chef-d'œuvre du genre dans le cinéma historique. C'est la première fois qu'on a des images aussi crues de la nuit de la Saint-Barthélemy. Alors rien que pour ça, c'est un documentaire très puissant et sur la vie de l'époque et la vie notamment à la cour royale, au Louvre, à l'époque sous la régence de Catherine de Médicis. Ce film fait beaucoup réfléchir sur la France, tout en étant agréable à regarder. Et il y a dans ce film un très grand esthétisme. Notamment, il y a certaines scènes. Alors, la beauté d'Isabelle Adjani, qui joue le rôle de la reine Margot, la fille de Catherine de Médicis, qu'on a mariée au Béarnais Henri de Navarre, qui était protestant, pour pouvoir faire venir toute la cour des protestants à la cour de Catherine de Médicis au Louvre, afin de pouvoir tous les assassiner. Cette reine Margot, c'est l'archétype même de l'agneau, c'est en quelque sorte l'agneau divin qui est souvent représenté, c'est-à-dire qu'on la prend pour un agneau, puisqu'on utilise ses appâts, on l'utilise pour pouvoir tout l'appât qu'elle peut constituer en tant qu'héritière, en tant que fille de la régente, et héritière d'une partie de la couronne et sœur du roi. C'est un agneau qu'on utilise comme appât pour assassiner tous les protestants et les éliminer. Donc ça, c'est une grosse intrigue de l'histoire. Alors moi, je ne veux pas faire, bien entendu, du révisionnisme historique, et comme je ne suis pas historienne, je me tairai, mais je parlerai simplement de l'interprétation que je fais du film de Patrice Chéreau. On en reste bien sûr là, simplement ça mérite, nos historiennes pourraient nous en dire un petit peu plus sur les véritables intentions de Catherine de Médicis, mais comme c'est présenté dans le film, on a vraiment l'impression que les protestants sont invités sous prétexte d'un mariage dont on souhaite qu'il ne sera peut-être jamais consommé, pour être assassinés et pour les éliminer. Après, l'interprétation revient aux historiens, bien entendu. Dans ce film, c'est ce qu'on voit, du moins, il y a des alors, c'est un film qui est très esthétique. Il y a certaines images qui ressemblent énormément à des peintures de Quentin de la Tour, ou de grandes peintures de la Renaissance. Voilà. Donc j'ai découvert ce film dans le cadre de WOS, War on Screen, en octobre 2025 à Chalon-Champagne à la Comète, qui faisait partie des films anciens que l'on diffuse en même temps que d'autres films nouveaux qui ne sont pas encore sortis, pour montrer la guerre et pour évoquer la guerre. Ça, c'est un aspect de la guerre, c'est une guerre civile, c'est un assassinat, c'est carrément presque un holocauste. Et donc du coup, je parlais de ça pour expliquer que Patrice Chéreau, ça m'a un peu interpellée. Et puis je l'avais catalogué dans ma tête comme un auteur qui faisait des grandes fresques historiques. Alors, bien entendu, les grandes fresques historiques, c'est intéressant, parce que c'est toujours intéressant d'essayer de se mettre dans l'époque, dans la peau d'un personnage d'une époque particulière. Et puis il faut avoir beaucoup de talent pour faire un grand film historique. Mais c'est quand même très difficile de faire un film historique qui a beaucoup de valeur. Souvent, enfin parfois, les cinéastes se cachent derrière le décorum et les costumes. Or là, il n'en était rien. Mais ça m'a quand même donné envie de mieux connaître Patrice Chéreau pour voir au départ s'il avait fait d'autres films historiques. Et puis je me suis rendu compte que pas du tout. Je me suis rendu compte que finalement, cette grande fresque historique qui au départ devait être l'histoire de D'Artagnan et qui finalement a viré en Reine Margot parce que il y avait un autre metteur en scène qui avait piqué l'idée de D'Artagnan. Et je me suis dit, ben c'est intéressant, il a fait un film qui est pas mal, il a donné son interprétation de cette histoire-là. Je vais aller voir si il y a d'autres films historiques de sa part. Et je me suis rendu compte que non, en regardant sur Internet. Et puis, aux chances, responsable cinéma de la Comète à Chalon-Champagne, dans la Marne, a décidé de faire une exposition autour de Patrice Chéreau et de diffuser des films de Patrice Chéreau. Donc c'est pour ça, alors je sais pas pourquoi, c'est un heureux hasard. Peut-être qu'elle aussi, elle a été interpellée et que ça lui a donné l'idée de voir la reine Margot. En tout cas, je rappelle qu'on avait eu quand même les acteurs, dont Jean-Hugues Anglade, du film, qui était venu parler de leur expérience lors du film, lors de la diffusion du film. Et donc, aux joies, Mathilde a eu cette idée intéressante de faire une mini rétrospective Patrick Chéreau à Châlons-Champagne. Donc elle a programmé plusieurs films de Patrick Chéreau avec une conférence qui a eu lieu ce samedi 17 janvier. Et ont été diffusés les films Judith Terpauve, Gabriel, ce qui est déjà beaucoup avec en plus la conférence. Et puis en plus, il y a cette fameuse exposition qui explique la carrière de Patrick Chéreau et qui m'a permis d'en savoir plus. Et je me suis rendu compte qu'il n'était pas étonnant que je sois surprise qu'il ait fait un film historique, mais que ça ait été... que ça n'ait pas été son principal, pas le fonds de commerce, parce qu'il est très éclectique. Il est déjà éclectique dans le genre cinématographique, mais il est aussi très éclectique dans son choix, des disciplines. C'est-à-dire qu'il a fait aussi beaucoup de théâtre, il a touché un peu à la peinture, à la musique, de par ses parents qui étaient artistes. Il a beaucoup écrit, il a dessiné. C'est un artiste à part entière. Et on sent que c'est un artiste qui utilise le support qui est le cinéma ou l'auto de support pour mener à bien une recherche très profonde que nous cherchons, qui finalement est commune à beaucoup d'autres. Notamment, le fond de sa pensée consiste, mais c'est un petit peu normal puisqu'il vivait à l'époque où des gens comme Althusser, Marx, Jean-Paul Sartre et d'autres étaient très importants et avaient nourri un arrière-fond permettant de disserter, de discuter sur l'éternel problème de la lutte des classes et le rapport au matérialisme dans le fait politique. Nous expliquerons plus tard de quoi il s'agit. Je voudrais simplement signaler que derrière tout ça, il y a quand même une recherche du bonheur. Finalement, on n'est pas loin de la définition d'Aristote, dont je parle souvent dans l'éthique à Nicomaque, qui nous fait comprendre que le politique, c'est simplement explicable par le fait que l'homme n'est pas autre chose qu'un politique, autrement il n'est pas homme. L'homme est un animal politique. Et par ailleurs, il démontre tout au long de son livre que le bonheur n'est rien d'autre que la recherche du bonheur pour tous par l'exercice de la vertu qu'il définit comme un juste milieu et un équilibre. Et on verra que dans tous ses films et dans toute son œuvre, il y a une recherche constante de cet équilibre ou du moins une volonté de montrer les déséquilibres sociaux ou historiques qui font qu'on échoue dans l'exercice de la vertu, du juste milieu, et donc dans l'accès au bonheur pour tous, d'où cette réflexion très profonde, bercée entre autres par les grands auteurs philosophes ou historiens ou économistes de l'époque, où Patrick Chéreau a évolué dans sa jeunesse, sur la lutte des classes, ou du moins la tension qu'il peut y avoir entre la bourgeoisie et le peuple. Il ira même jusqu'à dire le peuple, enfin ceux qui ne sont pas bourgeois, ceux qui n'ont pas accès aux biens culturels. Et on verra que Patrick Chéreau a consacré une très grande partie de sa vie, comme d'autres contemporains de son époque, à essayer, à défaut du capital économique, de diffuser le capital culturel de façon à ce qu'il puisse être partagé par le plus grand nombre. Là, je reprends un peu la théorie de Pierre Bourdieu qui nous explique que le capital n'est pas seulement économique, il y a aussi le capital culturel, le capital social et beaucoup d'autres formes d'appropriation de certaines sphères de participation à la société qui peuvent être appropriées par des groupes d'individus qui constituent en quelque sorte, le fondement de la hiérarchie ou du rapport entre les strates sociales. Enfin, j'irais même jusqu'à dire, concernant Pierre Bourdieu, qu'on peut parler de classe, puisqu'il suivait quand même Karl Marx. Donc voilà. Donc, toute l'œuvre de Patrick Chéreau, tourne autour de ces enjeux, des enjeux de pouvoir, la définition du pouvoir. Il ira même jusqu'à dire qu'en fait, les bourgeois ne peuvent pas avoir de pensée politique parce que ils se focalisent sur la préservation de leur patrimoine économique et que seuls les ouvriers ou les classes populaires qui n'ont pas accès aux biens économiques et au capital économique peuvent avoir une pensée politique. Ce qui est forcément contestable puisque après, derrière tout ça, on peut essayer de remettre en cause sa définition, la définition de pensée politique et essayer de se demander s'il faut toujours être sur la sellette pour avoir vraiment une pensée politique, ce qui est relativement triste. Ça veut dire que socialement, on n'est pas capable, tous ensemble, quelles que soient nos origines, notre niveau de richesse, etc., et notre position dans la société, de réfléchir tous ensemble à une véritable pensée politique qui reposerait sur l'anticipation et la préservation des intérêts de chacun. Et donc que toute pensée politique ne peut se faire que dans l'urgence, et quand on pense dans l'urgence, souvent on pense mal. On pense dans la haine et on oublie toujours certains intérêts. Donc il y a toujours des gens qui sont lésés, ce qui voudrait dire que la sphère politique et la société sont vouées à être en constante ébullition et en constant déséquilibre avec des phénomènes de destruction-reconstruction qui souvent créent des traumatismes lourds dans la société qui empêchent une véritable évolution et la mise en place d'une véritable politique de civilisation. Mais après, ça c'est à remettre en question aussi. Parce qu'on peut aussi, par ce biais-là, si on impose un ordre social, créer une dictature. Donc ce sont des choses très intéressantes à discuter. Et Patrice Chéreau, par son cinéma et son œuvre, et notamment les livres qu'il a écrits, a beaucoup contribué à nourrir les réflexions autour de ces sujets, des réflexions qui ne sont pas toujours terminées. Alors, si on a envie de participer à ces réflexions et de comprendre certaines choses que Patrice Chéreau avait compris, il faut donc s'intéresser à son œuvre. Donc je vais vous le présenter. Patrice Chéreau est né en 1944 en Anjou, à côté de la ville d'Angers. Il grandit entre Paris et la douceur de l'Anjou et les paysages lumineux de l'Espagne, où son père, le peintre Jean-Baptiste Chéreau, emmène régulièrement sa famille. À 5 ans, l'enfant découvre les antiquités égyptiennes au Louvre, initié par son père qui lui enseigne aussi à distinguer la bonne de la mauvaise peinture. L'appartement familial est situé rue de Seine à Paris. Il sert encore d'atelier de travail pour les parents, également décorateur pour tissus. Patrice Chéreau, qui est déjà fasciné par le spectacle qu'offrent les messes et les fêtes catholiques en Anjou comme en Espagne, développe ainsi un œil aiguisé et un esprit critique. Il se tourne vers la musique et le théâtre et il se procure ses premiers disques de Vivaldi, Bach et Verdi. Avec sa mère, Maddy, il découvre l'opéra de Pékin et seul s'abonne au Théâtre National Populaire de Jean Villard. Entre guillemets, je dis à mes auditeurs, le Théâtre National Populaire Jean Villard est vraiment célèbre, on en parle encore toujours beaucoup. En 1960, il a fait une véritable révolution. Si ça vous intéresse, allez voir sur Internet. En 1960, alors que Patrice Chéreau vient de pousser les portes du groupe théâtral du lycée Louis-le-Grand à Paris, où il est scolarisé, il est profondément marqué par le spectacle que le Berliner Ensemble vient jouer à Paris, Galilée et Arturo Uri. Passionné par Brecht, comme bon nombre de sa génération, il n'hésite pas, néanmoins, à se rendre tout seul à Berlin-Est, à l'époque c'était dangereux, pour voir les nouvelles productions de la troupe. Donc le théâtre de Bertolt Brecht, je n'en reparlerai pas, on en parle encore aujourd'hui, c'est un théâtre marquant et c'est vraiment du théâtre politique. c'est l'œuvre à citer quand on fait une dissertation, si pour les auditeurs qui passent leur bac de français cette année, sur l'action politique et là, l'utilisation des œuvres d'art pour faire de la politique, ou du politique du moins. Avant même de retrouver acteur et technicien, Patrice Chéreau se lance toujours dans un long travail de préparation. Pendant 50 ans, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il remplit des feuilles volantes, des carnets de notes, où il questionne inlassablement les textes, leurs personnages, les situations à l'aide d'une importante bibliographie. Ses recherches convoquent régulièrement l'actualité, la littérature, la peinture, le cinéma, la sociologie, l'histoire. Lecteur avide, il sollicite aussi dramaturges et collaborateurs pour nourrir sa réflexion, tels que Michel Bataillon ou encore François Regnault. Installé à ses grandes tables, des planches de bois montées sur tréteaux, Chéreau passe d'un projet à l'autre, laissant circuler idées et références entre ses mises en scène, comme le faisait Giorgio Strehler, rencontré en Italie, 1969-1972. Cet intense travail solitaire n'est pourtant qu'un premier pas, car l'essentiel pour lui advient ensuite. Sur le plateau, dans l'écoute, l'essai et le dialogue, loin de l'image du metteur en scène autoritaire, Chéreau valorise la part d'inconnu, accueille propositions et résistances. Sous son autorité, décorateur, acteur, éclairagiste ou scénariste participe d'une aventure collective qui peut tout remettre en question. Son parcours témoigne d'une exigence rare. Refuser la facilité, fuir la répétition, chercher chaque fois plus loin. Pour Chéreau, le théâtre, l'opéra ou le cinéma ne sont jamais des créations figées, mais des tentatives toujours inachevées à réinterroger sans cesse pour approcher une vérité plus nue. Donc c'est ça qui est intéressant, qui m'a frappé dans l'œuvre de Patrice Chéreau. J'avais commencé à m'y intéresser à partir de La Reine Margot, que j'avais trouvé excellent, bien sûr, et très riche, si on met de côté tous les costumes et la restitution d'époque, qui est fantastique déjà en elle-même. Mais j'avais ensuite fouillé un peu son œuvre et constaté que son œuvre était vraiment très éclectique. C'est très intéressant. Et c'est en lisant cette exposition que je comprends mieux. Effectivement, il refuse la facilité, il ne refait pas jamais la même chose. Il s'intéresse à plusieurs genres. Le polar, la fresque historique, voire même peut-être le drame bourgeois. Comme dit l'exposition, ce sont des tentatives inachevées et on réinterroge sans cesse sous différentes facettes pour approcher et essayer d'approcher une vérité qui reste finalement toujours la même, quelle que soit l'angle sous laquelle on l'a approchée. Ça revient un peu à la blague de l'éléphant, je vous la raconte rapidement. En Inde, 10 personnes, en Inde, un sage discute avec 10 de ses élèves, apprentis, et lui demande qu'est-ce que c'est que la vérité. Alors, le sage leur bande les yeux et les emmène auprès d'un éléphant. Et il leur demande à chacun, les yeux bandés, de toucher la forme qui est à côté d'eux, qui en fait est l'éléphant. Alors ils touchent, chacun de leur côté. Alors il y en a un qui décrit une grosse patte d'éléphant, un autre qui décrit la queue de l'éléphant, un autre qui décrit sa trompe, un autre qui décrit son museau. Et puis chacun décrit sa vérité à lui. Et après le sage leur dit, chacun de vous avait raison. Et il leur demande d'enlever leur bandeau et ils se rendent compte que avec un seul et même animal, l'éléphant, ils ont énuméré plusieurs vérités qui sont toutes vraies. Simplement, elles sont toutes différentes. C'est un peu sous cet angle-là que Patrice Chéreau, finalement, fait fonctionner son œuvre et son action d'artiste pour découvrir cette fameuse vérité. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est très éclectique et qu'à chaque fois, il y a des supports différents ou des genres différents sur un même support. Le jeune Patrick Chéreau fait ses premières armes au groupe théâtral du lycée Louis-le-Grand et il a alors une piètre image de lui-même. Il joue de la figuration, il joue des rôles de vieillard, mais il s'intéresse aussi à l'éclairage, au décor. Il pratique l'escrime, ça on le retrouve dans le film Margot. Il règle les duels dans les mises en scène des autres. Toutefois, c'est là qu'il rencontre plusieurs de ses futurs collaborateurs, comme Jean-Pierre Vincent ou le costumier Jacques Schmitt. Ils ont des références communes. Le cinéma expressionniste allemand, les films soviétiques, la FEKS, mais aussi les burlesques américains qu'il découvre à la Cinémathèque, alors située rue d'Ulm, pas très loin du lycée. Ils partagent en outre leur fascination pour les spectacles de Brecht et du Berliner ensemble. Lisent assidûment la revue engagée Théâtre Populaire, dans laquelle écrivent Roland Barthes et Bernard Dort. Roland Barthes, notamment, a écrit sur le théâtre de Bertolt Brecht des écrits qui sont très intéressants et qui donnent une ouverture très française sur la compréhension de ce théâtre-là, qui est du théâtre allemand, et même prussien, on va dire. En 1964, Patrick Chéreau se lance et propose sa première mise en scène en première mondiale. L'intervention de Victor Hugo, non sans avoir pris le soin d'inviter quelques personnalités. Peu après, la troupe Chéreau-Vincent se fait remarquer dans les festivals étudiants avec Fuente au Veruna, Erlangen, Marseille, 1965, puis en préposant un détonnant L'héritier du village au 3e festival mondial du théâtre universitaire de Nancy la même année. Le metteur en scène Bernard Sobel les invite ensuite au festival de Gennevilliers où Chéreau propose une version musicale de l'affaire de la rue de l'Oursine, laquelle sera reprise aux Trois Baudets à Paris grâce à l'association Travail et Culture. Donc l'affaire de la rue de l'Oursine, c'est une comédie musicale que Patrick Chéreau a voulu rendre célèbre. Je vous laisse aller regarder sur internet si vous vous intéressez à la chose, il y a certainement des images d'archives. En 1966, la troupe Chéreau-Vincent rejoint Sartrouville, donc Jean-Pierre Vincent, hein, bien sûr, rejoint Sartrouville où la municipalité communiste leur octroie la gestion du théâtre Gérard Philippe. Donc Gérard Vincent, il l'a rencontré au club théâtre de son lycée. Alors, ce nouveau théâtre populaire, le théâtre Gérard Philippe, proposera, je rappelle que Gérard Philippe, pour ceux qui ne sont pas de ma génération, c'était un très 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 grand acteur de théâtre et qui est décédé. Et il ressemblait, il avait beaucoup beaucoup de talent. Je vous conseille d'aller regarder internet pour voir des images d'archives également. Donc ce nouveau théâtre populaire proposera un répertoire au public de banlieue. Mais à la différence de Jean Villard, il tiendra un discours politique capable d'éveiller la conscience de classe et de susciter l'action. Le metteur en scène, lecteur des textes d'Althusser, comme je le disais tout à l'heure, sur le théâtre, propose alors des spectacles qui interrogent la lutte douloureuse de personnages à la recherche d'une véritable conscience d'eux-mêmes, libérée de l'idéologie. Cependant, donc, Patrick Chéreau, tout metteur en scène qu'il était, arrivait parfois à dépasser la pensée de certains très grands intellectuels français pour aller au-delà de la pensée idéologique ou de l'idéologie elle-même et faire émerger l'idée d'une pensée qui est au-dessus de l'idéologie. Je trouvais ça déjà très très fort. N'oublions pas que nous sommes dans les années 60. En mai 68, il participe au comité permanent de Villeurbanne où l'on repense le rôle des théâtres publics. La faillite financière et intellectuelle de Sartrouville le pousse néanmoins à un constat amer. Dans la revue Partisan, il dénonce l'échec des artistes militants et affirme que le théâtre politique doit revenir aux troupes amatrices et ouvrières. Au créateur, le devoir de se remettre en question. En Italie, 1969-72, Chéreau s'intéresse au théâtre d'agiprop marxiste, au théâtre militant américain, comme aux expériences menées par la gauche prolétarienne, allant jusqu'à vendre la cause du peuple aux côtés de Sartre et Beauvoir, 1970. Ces mises en scène, Splendeur et mort de Joaquin Murrieta Toller, dénoncent l'incapacité des intellectuels à soutenir la révolution. Dès 1900, alors ça c'est très intéressant, je pense que c'est un véritable bijou, un trésor pour ceux qui veulent chercher, faire des recherches, puisque maintenant, à les années 60, c'est l'histoire. C'est l'histoire du passé, c'est notre passé commun, d'aller faire des recherches pour essayer de comprendre les révolutions, l'idée même de révolution, sa signification profonde et son impact sur l'avenir de notre civilisation. Voilà. Dès 1972, il se tourne vers la psychanalyse, il lit Lacan, et il trouve dans cette science une nouvelle voie d'émancipation différente du matérialisme. Les écrits de Guy Hockenheim, notamment Le désir homosexuel, nourrissent alors la dispute et la chair de l'orchidée. Deux films intéressants. Voilà. En 1975, ébranlé par l'actualité internationale et les témoignages qui suivent la sortie du film L'archipel du Goulag, Chéreau rompt avec le matérialisme définitivement pour revendiquer un humanisme assuré. Donc un auteur matérialiste, c'est un philosophe ou un intellectuel qui estime que le sens et la marche de l'histoire sont guidés par des considérations matérialistes, justement, par notamment sur la propriété du capital. Donc, ce qui fait qu'il y a lutte et qu'il y a révolution, et donc que la société évolue dans la douleur, enfante dans la douleur, c'est la constante tension entre ceux qui ont le capital et ceux qui l'ont pas. Donc c'était la grosse discussion de l'époque, et beaucoup de nos intellectuels français, de nos grands intellectuels français, ont fait reposer une très grande partie de leur pensée, pas tous hein, bien sûr, une très grande partie de leur pensée sur ce sujet-là qui est profondément d'origine marxiste, et notamment on va dire plutôt que marxiste, puisque c'est pas lui qui a fait tout ce buzz finalement, post-marxiste on va dire, c'est-à-dire ceux qui ont voulu être ses continuateurs. Et donc il abandonne tout ça pour un humanisme assumé, Patrice Chéreau. Et que va-t-il nous faire? Eh bien, il est attaqué par la critique marxiste, Lire, en 1975. Il poursuit son engagement. Il rejoint avec le Lire, 1975, c'est une de ses œuvres qui a été critiquée par les marxistes. Il rejoint l'Association internationale de défense des artistes victimes de la répression dans le monde, l'AIDA. Il soutient Václav Havel et le VONS dans leur procès stalinien à Prague. Donc Václav Havel, je vous le rappelle, c'était un opposant de l'actuelle République tchèque, enfin de l'ancienne Tchécoslovaquie, qui par la suite en est devenu président. Il aide financièrement Solidarnosc en Pologne et il participe au film collectif Contre l'oubli, coproduit par Amnesty International. Dans les années 2000, il manifeste contre le Front National, boycotte le festival de Salzbourg dans l'Autriche de Jörg Haider et défend la constitution européenne contre les souverainismes de tous bords. Des utopies théâtrales à leurs échecs, du marxisme à la psychanalyse, du matérialisme à l'humanisme, Chéreau aura traversé toutes les années 68 à la recherche des moyens dont dispose l'être humain pour se libérer. En 1972, Patrice Chéreau quitte Milan. Il rejoint le nouveau théâtre national populaire, le TNP, décentralisé à Villeurbanne, dans le 69, dans le Rhône, à côté de Lyon. Il partage alors la co-direction artistique avec Roger Planchon à l'initiative de cette invitation. La direction financière est cependant assurée par Robert Gilbert et Patrice Chéreau, toujours poursuivis par les dettes de Sartrouville. Ces années, Villeurbanne constitue aux yeux de Chéreau un véritable espace de liberté artistique, intellectuelle et politique. Il peut désormais se consacrer à monter un projet jusque-là refusé au Piccolo, ainsi qu'à la Freie Volksbühne, massacre à Paris 1972. Il inaugure la saison de ce TNP en préfiguration. Il propose également une nouvelle interprétation historique et politique de Toller, scène d'une révolution allemande, 1973-1974. Avec la dispute 1973-1976, il retrouve Marivaux. qui reste méconnu en Italie. Rester au TNP n'empêche pas le metteur en scène de poursuivre son itinérance. Il propose son second opéra, Les Contes d'Hoffmann, à l'Opéra de Paris, en 1974. La même année, Wolfgang Wagner et Pierre Boulez lui proposent de mettre en scène L'Anneau du Nibelung de Richard Wagner pour le centenaire du festival de Bayreuth de 1976 à 1980. Une œuvre qui fera date, largement conspuée la première année, puis ovationnée par 107 rappels et 45 minutes d'applaudissements à la dernière représentation. Avec Pierre Boulez, un musicien contemporain, se poursuit avec la première mondiale de la version complète de l'opéra Lulu 1979 à l'Opéra de Paris. après avoir mis en scène des textes contemporains comme Le Roi Lear d'Edward Bond en 1975. On en a déjà parlé, il a été critiqué par les marxistes. Et Loin d'Agondange de Jean-Paul Wenzel en 1977, réalisé deux films, La chair de l'orchidée en 1975, Judith Terpauve en 1978, Patrick Chéreau clôt son aventure au TNP de Villeurbanne avec un colossal et magnifique Peer Gynt en 1981. L'année où a été élu François Mitterrand. L'année suivante, il part pour Nanterre, où il est nommé à la co-direction du Théâtre des Amandiers, en compagnie de Catherine Tasca. Malgré la faillite financière et intellectuelle du Théâtre de Sartrouville, Patrice Chéreau s'est fait un nom. Giancarlo Menotti, le fondateur du Festival des Deux Mondes, invite le jeune homme à Spoleto pour montrer son premier opéra en juillet 1969. Les débuts sont difficiles. Les échanges avec le directeur du festival et le chef d'orchestre sont tendus. Pourtant, Chéreau propose un italien à Alger, audacieux et détonnant. Parmi les spectateurs étonnés, un certain Luchino Visconti lui lance amusé « C'est difficile de faire de l'opéra, n'est-ce pas ?» Et Chéreau, qui admirait l'œuvre du cinéaste, comprend qu'il n'a pas apprécié le spectacle. Chéreau reste sollicité. Antoine Bourseiller l'invite à Marseille pour mettre en scène Richard II, tandis que Paolo Grassi, le nouveau directeur du Piccolo Teatro de Milan et successeur de Giorgio Strehler, lui propose de rejoindre durablement son théâtre. Là, Chéreau entend porter un discours critique, ouvertement marxiste, sur l'histoire et sur le rôle des intellectuels. Ses mises en scène de Splendeur et mort de Joaquin Murrieta en 1970 et de Toller, scène d'une révolution allemande, 1970-71, explorent les difficultés des artistes et des intellectuels à devenir d'authentiques soutiens des ouvriers et des paysans en révolution. En 1971, Chéreau revient à Spoleto où il fait découvrir Marivaux et la Finta Serva au public italien du festival. Puis au Piccolo Teatro, il crée Lulu de Wedekind en 1971, son dernier spectacle milanais avant de rentrer en France. Il commence alors à imaginer son premier long métrage. La chair de l'orchidée, un film policier dans une Italie passionnée de gialli. Peu après, il répond à l'invitation de Roger Planchon qui lui propose de partager la co-direction du nouveau Théâtre National Populaire, désormais décentralisé à Villeurbanne, à nouveau. Chéreau arrive fort de ses riches années italiennes, de son travail avec les comédiens, comme de ses rencontres et discussions avec Strehler, Visconti et Fellini, qui lui confiera plus tard le doublage français de Casanova. En 1982, le nouveau ministre de la Culture, Jacques Lang, propose à Patrice Chéreau de prendre la co-direction du Théâtre des Amandiers à Nanterre en compagnie de Catherine Tasca, comme nous l'avions dit tout à l'heure. On a fait un petit retour en arrière. Ce lieu, à la fois maison de la culture, et centre dramatique national, est profondément transformé par les ambitions et l'expérience de Chéreau. Tirant les leçons de l'échec militant de Sartrouville en 1969, il sépare la création de l'action culturelle confiée à des structures extérieures. Avec Catherine Tasca, il crée une SARL, offrant ainsi un espace de recherche gratuite et souterraine à l'abri des pressions politiques des élus locaux. Le lieu abritera effectivement un théâtre, des studios de cinéma, une production, mais aussi la fameuse école de comédiens dirigée par Pierre Romance, où seront fermés entre autres Laura Benson, Valeria Bruni Tedeschi, Christine et Marc City, Marianne Denicourt, Eva Ionesco, Agnès Jaoui, Thibaut de Montalembert, Bernard Missile, Vincent Pérez et Bruno Todeschini. Élèves, ils seront simultanément les acteurs professionnels d'André Téchiné et de Jacques Voilon, tandis que Patrice Chéreau les guidera dans ses propres œuvres au cinéma et au théâtre. Platonov et Hôtel de France en 1987, Hamlet en 1988. Nanterre-Amandier constitue aussi le lieu propice du travail avec des auteurs contemporains. Chéreau propose ainsi Les Paravents de Jean Genet en 1983, ainsi que Quartet de Heiner Müller en 1985. Mais c'est bien entendu le nom de Bernard-Marie Coltès qui reste attaché à ses années nanterres. D'abord réticent face au texte du jeune dramaturge lors de leur rencontre en 1979, Chéreau est ensuite convaincu d'y découvrir une langue et un univers très différents des siens. Il décide alors de monter toutes les pièces que Coltès acceptera de lui confier. Au public français, il fait découvrir un nouvel auteur, avec Combat de nègres et de chiens en 1983, Key West en 1986, Dans la solitude des champs de coton en 1987 et Le retour au désert en 1988. L'aventure prend fin au tournant de l'année 89-90 avec ses cruelles séparations, les disparitions successives et brutales de Bernard-Marie Coltès, puis de Daniel Delannoy, qui signait les Lumières à Nanterre, et enfin de Pierre Roman, finissent de précipiter le départ de Patrice Chéreau, déjà conscient de la fin imminente de cette expérience. Fidèle à lui-même, refusant toujours la facilité et la quiétude, il reprend son itinérance et souhaite avant tout se réaliser comme cinéaste. Au moment de quitter le théâtre des Amandiers, frappé par la disparition de plusieurs proches, Chéreau écrit « Maintenant que je quitte Nanterre, je veux mettre tout le temps qui me reste à profit pour penser d'urgence à ce que j'ai envie et besoin de faire. Des films, du théâtre bien sûr, et exceptionnellement des opéras. S'il continue l'art lyrique, c'est avant tout pour collaborer avec des chefs d'orchestre dont il apprécie le travail. Il accepte ainsi de monter Vosek en 1992, Don Giovanni en 1994 et Tristan und Isolde en 2007 avec Daniel Barenboim, de mettre en scène Così fan tutte en 2005 avec Gustave Kuhn ou encore de retrouver Pierre Boulez pour De la maison des morts en 2007 avant de proposer sa dernière œuvre Electra en 2013 en compagnie d'Esa-Pekka Salonen. Au théâtre, après Le temps et la chambre de Boto Strauss en 1991, Chéreau revient à Shakespeare, fragment de Henri VI et de Richard III, avec les élèves du conservatoire en 1998 et également au Grand Racine, Phèdre 2003. Il poursuit son compagnonnage avec Coltès en proposant une nouvelle version de Dans la solitude des champs de coton en 1995, puis en montant le tout premier texte que le dramaturge lui avait soumis en 1979 et qui s'appelait La nuit juste avant les forêts, 2010, Le Louvre. Le temps d'une carte blanche, le musée lui permet en outre de réunir les arts qu'il affectionne, la peinture, la danse, avec l'aide de Thierry Tionyang, et le théâtre, avec deux œuvres de Yann Fossé, Rêve d'automne et I am the wind, qui s'ajoutent au texte de Coltès. Dans ces mêmes années, à la recherche d'une plus grande épure, Chéreau explore la lecture comme forme scénique autour de textes de Guibert, Dostoïevski, Gliotta, et Nijinsky. Mais c'est bien entendu au cinéma qu'il souhaite avant tout s'accomplir. Patrice Chéreau réalise son film le plus connu, la coproduction internationale La Reine Margot, en 1993, avec la scénariste Danielle Thompson. Ce film, qui renouvelait le genre historique, ouvrait la voie à d'autres projets écrits avec Pierre Trévidic dans les années 2000-2010. Aucun ne verra pourtant le jour. Sic Maringen sur l'exil du gouvernement de Vichy, Le maître de Longwood avec Al Pacino en Napoléon et 51-52 sur la guerre d'Indochine. Faute de pouvoir les réaliser, ce sont les grands fantômes de la carrière de Patrice Chéreau. Il en tourne d'autres plus intimistes en compagnie d'Anne-Louise Trividic, Intimité en 2001 et Son frère en 2003, qui viennent clore ce que Patrice Chéreau appelait parfois une trilogie familiale, commencée en 1998 avec son film Chorale, Ceux qui m'aiment prendront le train. L'artiste, bientôt président du jury du Festival de Cannes en 2003, vice-président de la Cinémathèque française en 2005 et président de la FEMIS en 2006, réalisera encore Gabriel en 2005 et Persécution en 2009 avec la même scénariste. Dedans, il y a des petits chefs-d'œuvre que je vous conseille de regarder, qui sont des petits chefs-d'œuvre qui sont nés justement de cet échec de Patrice Chéreau à réaliser son grand projet cinématographique qu'on vient de citer, Sing Maringel sur l'exil du gouvernement de Vichy, Le maître de Longwood avec Al Pacino en Napoléon et 51-52 sur la guerre d'Indochine. Il n'a pas eu les fonds pour les réaliser, il n'a pas trouvé les bonnes personnes, il avait envie de faire d'autres films historiques, et puis il n'a pas pu, ça coûte cher les films historiques, des grandes fresques comme La Reine Margot. Heureusement qu'on a pu avoir ce film, ça fait partie de notre patrimoine cinématographique qu'on peut revoir autant qu'on veut. C'est la magie du cinéma. Et donc, ce que je disais, c'est que tous ces petits bijoux qu'il a réalisés par la suite, par défaut, parce qu'il n'avait pas pu faire son grand projet, dont Gabriel, on va en parler tout à l'heure. Et d'ailleurs, il était présenté lors de la rétrospective au cinéma La Comète, sont des vrais petits bijoux parce qu'ils sont sortis de cet échec. Donc, c'est intéressant de les penser comme cela. Donc on va parler un petit peu maintenant du film Gabriel. Isabelle Huppert, qui est une artiste exceptionnelle du cinéma français, au même titre que d'autres comme Isabelle Adjani ou d'autres grandes actrices que Patrice Chéreau a fait tourner, dit lorsqu'on... journaliste lui pose la question de quel est le film qu'elle préfère parmi ceux qu'on lui a offert, enfin ceux dans lesquels elle a joué des rôles, elle répond Gabriel de Patrice Chéreau. Alors quel est le mystère de ce film? On l'a dit tout à l'heure, c'est un film qui ressort d'un échec par rapport à un autre projet cinématographique de Patrice Chéreau, qui était un projet assez ambitieux qui coûtait assez cher, et c'est un film... C'est pas un vaudeville, on va plutôt aller dans le drame bourgeois. Et c'est un film qui reflète très bien les grandes questions qu'a pu se poser Patrice Chéreau, justement sur les classes sociales, la révolution, le bonheur pour tous, le sens du politique, de l'action politique et de la pensée politique, et de savoir si quelle catégorie socio-économique est la plus à même d'avoir une pensée politique. Il faut se rappeler que Patrice Chéreau est un grand lecteur. Il découvre l'œuvre de Joseph Conrad à l'été 2003. Et Joseph Conrad, justement, écrit des nouvelles. Comme Patrice Chéreau n'a rien à lire, et comme à sa préférence, il préfère acheter les livres dont il ignore tout, il se procure l'édition des nouvelles complètes de l'auteur et découvre la nouvelle « Le retour » parmi le recueil des histoires inquiètes, donc de Joseph Conrad. Saisi par la destruction du personnage masculin, comme par l'énigme de l'épouse infidèle revenue d'elle-même dans un foyer où l'amour est absent, il envisage quelques mois plus tard d'en réaliser une adaptation. Donc ici, Isabelle Huppert campe une femme qui a quitté son mari dans la grande bourgeoisie, elle revient et toute l'intrigue va tourner autour de faire comprendre de la découverte par le mari de l'image qu'il donne de lui et de ce que les autres, et notamment son épouse, pensent de lui et de sa valeur à lui. Voilà. Le metteur en scène dispose, enfin, du moins, c'est ce que j'ai retenu. Après, c'est mon interprétation à moi, mais c'est un drame et en fait, on sent dans le film et sur toutes les interprétations qu'on peut avoir du film dans les journaux, que en fait derrière ce personnage du mari trompé, blessé, quitté, et puis chez qui on retourne pour pouvoir mieux le narguer, lui montrer que ce n'est pas quelqu'un de que c'est pas quelqu'un de bien. Qui doit être magnifique, qui est magnifiquement campé par Isabelle Huppert, qui a dû s'en donner à cœur joie. D'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça que c'est son film préféré, parce qu'elle a certainement pu se lâcher contre plein de choses qu'elle n'appréciait pas dans la société. Cet homme symbolise finalement la société et ceux qui commandent dans la société. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, c'est mon interprétation. À vous d'aller voir le film ou de lire la nouvelle « Le retour » de Joseph Conrad. Le metteur en scène dispose d'un court répit avant... Alors, pardon. Voilà, donc ça c'était pour parler de Gabriel. Alors, il fait d'autres choses. Il monte « Così fan tutte », ce film à l'époque. Donc, ça veut dire que pour pouvoir monter « Così fan tutte », il va devoir tourner le film « Gabriel » très rapidement. La scénariste Anne-Louise Trividic doit user de toute son imagination pour proposer rapidement une adaptation cinématographique qui creuse, puisque Chéreau creuse toujours, et respecte l'esprit de la nouvelle. Son art de la mufflerie est d'une violence toute feutrée, un bijou que ce film. La préparation du film est l'occasion, comme toujours, de croiser les références culturelles, l'œuvre de Conrad, Le Retour, L'Agent Secret, le dialogue avec la description de la bourgeoisie du XIXe siècle, puisqu'on est au XIXe siècle dans ce film, par Sándor Márai, Confession d'un bourgeois. Les peintures de Fantin Latour, les films hongkongais et taïwanais, Épouse et concubine, Fleurs de Shanghai, et bien sûr les œuvres d'Ingmar Bergman, Entretien privé, Scène de la vie conjugale. Alors on voit que l'assise bibliographique est très 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 riche, ce qui donne d'autant plus, je pense, de valeur à ce film. Le rôle de la femme, Gabrielle, est ici particulièrement développé afin qu'elle soit toujours surprenante, caustique et que les spectateurs comprennent son énigmatique retour. L'amant, absent de la nouvelle, apparaît dans le film, de quoi aiguiser la curiosité des lecteurs. Loin d'être un film historique, Gabrielle est résolument contemporain, même s'il y a des beaux costumes d'époque. Le langage particulièrement travaillé n'est pas celui du XIXe siècle. Il est en outre écrit pour apparaître plus brutal que dans la nouvelle. Pour ne pas dévoiler ni juger trop vite la vanité de Jean, l'époux, il a décidé d'écrire le film et ses voix off à la première personne du singulier. Chéreau utilise en outre toutes les ressources du cinéma pour faire passer l'essence de la nouvelle. Le cinémascope, un magnifique plan séquence, la musique symphonique de Fabio Vecchi, digne d'un film d'Hitchcock, le montage qui participe de l'effondrement de cet homme trop sûr de lui. L'usage des panneaux de texte, lequel est moins une référence au muet qu'une façon toute cinématographique et peu exploitée de découvrir la brutalité des mots. Les plans fixes et l'usage unique de la caméra épaulent pour la scène de l'agression. Tout concourt à mettre en scène l'effondrement de Jean et la conquête difficile pour Gabrielle, comme pour lui, de leur conscience, un thème récurrent dans l'œuvre du metteur en scène. En 1973, alors qu'il travaille sur la chair de l'orchidée, Chéreau découvre dans un recueil d'affaires criminelles l'histoire d'un homme qui, par deux fois, a tué des prostituées dont il était passionnément amoureux, avant d'avaler des barbituriques et de s'endormir auprès de leur corps. Ce fait divers lui donnera l'idée d'écrire ce qui deviendra l'homme blessé. Peu après, il rencontre Hervé Guibert, alors jeune journaliste, auquel il confie ses notes et propose d'en faire un scénario. Commence alors une longue collaboration de 1975 à 1983, jalonnée d'une douzaine de versions du script. Ensemble, ils imaginent le destin tragique d'Henri, incarné par Jean-Hugues Anglade, que Chéreau rencontre aussi à cette époque. Adolescent en quête d'un homme plus âgé, mi-indique, mi-proxénète, dont il tombe amoureux. L'histoire s'éloigne du simple fait divers pour devenir une exploration de la passion, de la négation, de la destruction et du malheur. Chéreau et Guibert nourrissent leur projet de lecture partagée. Le journal du voleur de Genet, le palais des très blanches mouffettes d'Arenas, les reconnaissances de Galice, mais aussi des films comme Senso de Visconti. Pour Chéreau, il s'agit avant tout de filmer la passion et le corps à corps sublime des hommes, bien au-delà de la simple question homosexuelle. À cette époque-là, on était en plein dans les années sida. Ceux qui habitent Marseille et qui ont vu l'exposition du MUCEM sur le sida, on savent quelque chose. Et on était en pleine réflexion là-dessus. Et on était au-delà de l'esthétisation du corps à corps masculin, même si il avait quand même sa part. Donc Chéreau a dû choquer à cette époque-là. Mais bon, de toute façon, il n'en était pas à sa première... à sa première expérience de création de choc. Tourné entre Villeurbanne et la gare du Nord à Paris, l'homme blessé est sélectionné à Cannes en 1983. Le film choque et divise. Certains spectateurs sont gênés, d'autres lui reprochent une vision trop violente et marginale de l'homosexualité. Yi Okungame, écrivain et militant, critiquera même la volonté du cinéaste de réduire son sujet à une histoire de passion, comme pour fuir explicitement le thème homosexuel. Mais, puisque en fait les gens ont voulu en faire un fait social, et au lieu d'y voir tout simplement un corps à corps ou une amitié amoureuse ou une relation entre deux personnes qui s'estiment et qui s'aiment, au-delà de la considération liée à l'appartenance sexuelle de chacun. Donc toujours, on est toujours chez Chéreau dans la mise en avant davantage de l'humanisme, d'une valeur, de valeurs humanistes et universelles plutôt que de valeurs qui ont une empreinte sociale caractérisée. C'est bien cette blessure, cette violence, ce brouillage entre la norme et les marges qui donne au film toute sa force et sa singularité. Un film à voir donc. En 1994, la scénariste Danielle Thompson propose à Patrick Chéreau de raconter un enterrement inspiré de celui du cinéaste François Reichenbach. Avant de mourir, celui-ci aurait lancé à ses proches « Ceux qui m'aiment prendront le train ». Alors il est allé se faire enterrer à Limoges et tous ceux qui voulaient aller à son enterrement étaient obligés de prendre le train pour aller au fin fond du territoire français. Alors, autour de tout ça, Chéreau brode sur la question de la famille, de la mort, de l'enterrement, et il mélange avec son film, l'enterrement de François Reichenbach, celle de son père, celui de Foucault, raconté par Hervé Guibert, voilà. L'écart entre les vivants et les morts, leur rapprochement. C'est un film qui, je pense, mérite d'être vu. Ceux qui m'aiment prendront le train, avec comme producteur Charles Gassot. Et puis il y aura une trilogie intime sur la famille qui va sortir. Donc le premier film, c'est Ceux qui m'aiment prendront le train. Intimité en 2001 et Son frère en 2003. À voir, je pense, ceux qui m'aiment pendant le train, ça vaut le coup. Surtout s'il y a des images de l'enterrement de Foucault à Paris. A priori, La chair de l'orchidée, sortie en 1975, et Judith Terpauve, en 1978, racontent des histoires qui sont contemporaines. Pourtant, leur jeunesse prend racine dans la mémoire empêchée des années d'occupation. Les années 80 sont déjà des années qui sont encore très 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 marqué par l'occupation allemande, et sous le vernis du film noir, je parlais de polar tout à l'heure, encore un nouveau genre auquel s'intéresse Patrick Chéreau, il y a toute une réflexion sur une société qui est malade ce qui s'est passé autrefois, et qui est également malade des résurgences de ce passé, puisqu'il y a des gens qui sont impunis, et puisque ça continue malgré les atrocités passées, en cachette. Donc là, dans ce film, il y a Bruno Crème, Donc, La chair de l'orchidée, c'est pareil, c'est un film qui relève d'autres nappes de passé, des guerres civiles françaises, avec Bruno Kramer, excellent acteur en personnage principal, et Judith Terpauve, c'est une réflexion sur la disparition des journaux issus de la résistance après la Deuxième Guerre mondiale. C'est admirablement, mais je dirais magistralement joué par Simone Signoret, qui tirait sa beauté d'une relative sérénité, on va dire, et son talent également. Et donc, du coup, ce film raconte, c'est un film qui est marqué par le sceptre de la collaboration. Judith Terpauve, c'est une ancienne résistante, qui récupère un journal résistant, qui est en voie de disparition, parce que il est assailli par les grands groupes, et notamment le groupe Hersant. Et donc, elle perd, forcément elle se suicide à la fin. C'est très intéressant, elle a été résistante et déportée, et elle se retrouve dans un combat perdu d'avance. Et je conseillerais à nos auditeurs qui s'intéressent à la question de lire le livre noir des journalistes de Paris-Normandie qui incrimine la gestion et le passé de Robert Hersant. Et ses accointances avec la collaboration. Voilà. J'évoquerai une dernière fois la reine Margot, une fresque exceptionnelle. Je vous souhaite d'aller le voir sur grand écran un jour, c'est magnifique. Voilà. Alors, on parle aussi de Hôtel de France, un autre film que Patrick Chéreau a voulu envisager dès les années 86. Un film qui est à voir également. Je ne peux pas m'attarder davantage puisque notre émission prend fin. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Et nous ferons une rétrospective sur d'autres cinéastes pendant l'année, français ou étrangers. Bonne fin de semaine, bon début de semaine, chers auditeurs.